Bonjour et bienvenue dans le grand oral AEF Info FNEJ, le podcast des dirigeants de l'enseignement supérieur de gestion. Je suis Sarah Pieuvezan, journaliste à AEF Info, et Jérôme Cabi, délégué général de la FNEJ, est à mes côtés aujourd'hui pour recevoir Caroline Roussel, directrice générale de l'IESSEG depuis un peu plus d'un an et demi. Autant dire que c'est une jeune directrice que nous accueillons aujourd'hui. Bonjour Caroline et bonjour Jérôme.
Bonjour.
Bonjour Sarah, bonjour Jérôme.
Caroline Roussel, vous avez succédé en juillet 2022 à un homme qui a laissé son empreinte sur l'IESSEG, Jean-Philippe Ameux, puisqu'il l'a dirigé pendant 28 ans. Comment on se fait une place après un tel règne ?
Je pense que la chance que j'ai eue, c'est d'avoir une passation et une transmission longue et d'avoir travaillé aux côtés de Jean-Philippe Ameux pendant 20 ans, puisque j'avais rejoint l'IESSEG en 2002. Et d'avoir eu des responsabilités à ses côtés pendant une bonne dizaine d'années. Donc on apprend à travailler ensemble, mais on apprend aussi à défendre ses convictions, ses points de vue, et à porter un projet finalement qui est à la fois ancré dans la cohérence de ce qui a été fait, dans ses fondamentaux, mais aussi avec une vision complémentaire, des orientations différentes, et finalement de trouver sa place et son identité en tant que directrice générale.
Alors justement, vous l'avez dit, vous connaissez l'IESSEG comme votre poche, parce qu'après avoir suivi des études initiales à l'ICN, puis à l'IAE de Lille, et obtenu votre doctorat en 2002 à l'université de Lille 1, vous êtes recrutée cette même année par l'IESSEG comme professeure assistante, et puis vous avez déroulé toute votre carrière dans la même école jusqu'à en prendre la direction générale, donc 20 ans après. Est-ce qu'il faut parler d'une forme de localisme à votre égard ? Est-ce que vous ne regrettez jamais de ne pas avoir vécu davantage d'expérience dans divers établissements avant d'en piloter un ?
Je pense que mon parcours, m'a permis de grandir et d'apprendre, en même temps que je contribuais aussi à faire grandir et à faire se développer l'IESSEG. Et finalement, ça a été un parcours que j'ai trouvé très riche et très enrichissant, très apprenant dans mes expériences à l'IESSEG, parce que l'écosystème de l'IESSEG en lui-même, il est très diversifié, très ouvert sur le monde, avec une multitude de partenaires internationaux avec qui on travaille, qu'on va visiter, qui viennent nous voir, avec une multitude de partenaires entreprises. Donc finalement, cette stimulation intellectuelle, cette richesse, je l'ai trouvée sur place, à Lille et à Paris.
Alors venons-en à l'IESSEG, puisque cette école fête ses 60 ans en avril. C'est un peu l'occasion de regarder quelle a été la trajectoire et puis de faire un arrêt sur image sur ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors quelques rappels, l'IESSEG est née dans le giron de la Cato de Lille, avec laquelle vous continuez d'entretenir des liens institutionnels. Vous avez toujours été positionné sur le format post-bac en 5 ans, ce qui est une caractéristique distinctive dans notre domaine, que c'est une école qui est fortement imprégnée d'une culture de recherche, puisque ça vous vient notamment du copilotage du labo LEM, Lille Économie Management, une UMR associée au CNRS, l'Université de Lille et l'IESSEG. Alors, dans un paysage de l'enseignement supérieur très concurrentiel dans le domaine de la gestion, et en particulier à Lille, avec vos concurrents l'EDEC et Esquema, qu'est-ce qui vous distingue encore aujourd'hui le plus aux yeux de vos clients, de vos parties prenantes ?
Alors effectivement, le site Lillois est un site tout à fait spécifique et intéressant en France, où on entretient à la fois des relations de coopération et de partenariat, puisque, vous l'avez dit, on travaille avec l'Université de Lille, notamment sur la partie recherche, mais aussi sur des collaborations en enseignement. On travaille avec certaines autres institutions de l'Université catholique de Lille, dont fait aussi partie l'EDEC. Et finalement, tout ça se passe en bonne intelligence, mais en même temps avec une concurrence sur le recrutement des étudiants, sur le recrutement des professeurs et sur pas mal de sujets. Donc en stratégie, on peut parler de coopétition sur ce site lillois. Ce qui caractérise l'IESSEG, c'est effectivement depuis le démarrage, un positionnement spécifique qui a été sur du recrutement post-bac pour son programme Grande École en 5 ans, et donc finalement en cohérence avec le LMD et la réforme de Bologne, licence, master, doctorat. Et puis, ce qui nous caractérise également, ce sont deux autres éléments. Le premier, c'est l'internationalisation de notre campus lillois, puis du campus parisien qui a été créé en 2008. Avec aujourd'hui une centaine de nationalités d'étudiants, 70 nationalités dans le staff, tous les programmes enseignés en anglais sur l'ensemble du portefeuille de programmes et un réseau de partenaires internationaux très large. Et puis une deuxième dimension, c'est que l'école a été créée en 1964 avec, dès le départ, une attention en fait portée à l'éthique et elle a été fondée par Michel Fallis qui est un professeur d'éthique et finalement on le retrouve encore aujourd'hui dans l'ADN de l'école et dans son engagement en RSE, en DDRS, dans ses programmes, dans sa recherche et dans ses activités.
D'accord. Vous évoquiez l'offre de programme. C'est encore aujourd'hui très monoproduit hein, puisque vous avez 85% de vos effectifs qui sont inscrits dans le programme Grande École. Vous citiez le LMD dans un marché qui est tiré avant tout aujourd'hui par le format bachelor. Est-ce que vous pensez que le modèle post-bac PGE en 5 ans a encore de l'avenir ?
Alors, le portefeuille de programmes de l'IESSEC, aujourd'hui, c'est 20 programmes différents. Un bachelor en 3 ans, le programme Grande École en 5 ans, des masters et de la formation continue sur mesure et des programmes diplômants. Donc, effectivement, le programme phare, le flagship, comme disent les anglo-saxons, reste le programme Grande École par son volume, par l'importance des diplômés de ce programme Grande École. Mais néanmoins, aujourd'hui, l'école a une stratégie de diversification de son portefeuille de programme et notamment de diversification vers les bachelors. Nous avons un bachelor international business. Nous ouvrons à la rentrée prochaine un bachelor en partenariat avec Rubika, qui est management et tech design. Et donc, je pense que le savoir-faire de l'école sur le recrutement post-bac, l'accompagnement des jeunes dans la transition entre le lycée, l'enseignement supérieur, les premières années d'enseignement supérieur, va nous permettre de continuer à développer des programmes bachelor et à diversifier davantage l'offre de programmes.
Ça veut dire que vous avez une cible, par exemple, dans 10 ans, moins de 50% des étudiants dans le programme Grande École ou c'est plus diffus ?
Alors, la cible n'est pas quantifiée en tant que telle. Par contre, j'ai la conviction, effectivement, qu'il faut diversifier davantage le portefeuille de programme. Enfin, voilà, c'est la gestion du risque en termes de portefeuille d'activité. Je pense qu'il y a des variables à prendre en compte, qui sont aussi des variables démographiques, qui sont voilà, pas en faveur de l'enseignement supérieur pour les prochaines années en France. Il y a des variables aussi sociales, les attentes des jeunes, et des variables liées aux entreprises et ce que les entreprises attendent en termes de compétences. Donc je pense qu'il faut que notre offre de programme, elle s'adapte et elle tienne compte de tous ces facteurs.
Est-ce que vous la ressentez, cette concurrence des bachelors, là, en 2024 ? Est-ce que vous sentez que les jeunes sont plus attirés par ce format-là ?
Alors, il y a des signaux faibles, je ne sais pas aujourd'hui le quantifier, mais effectivement, on se rend compte que dans nos interactions avec nos étudiants actuels, avec les lycéens qui viennent à nos journées d'immersion, nos journées portes ouvertes, on a de plus en plus de questions et d'intérêts sur les bachelors. La cible qui est peut-être pas encore complètement au fait de ce que les écoles proposent en termes de bachelor, ce sont les prescripteurs et les principaux prescripteurs, ce sont les parents pour qui voilà, l'image du programme Grande École en 5 ans avec un grade de master reste importante. Mais on voit en tout cas dans nos échanges avec les jeunes qu'il y a une appétence pour se laisser finalement l'opportunité du choix à la fin du bachelor. Je poursuis mes études ou je vais sur le marché du travail. Et la deuxième tendance, c'est une appétence forte aussi pour les études à l'étranger sur un programme bachelor et puis éventuellement ensuite revenir en France pour poursuivre sur un master.
Alors justement, on sait que les grandes écoles et les universités étrangères attirent de plus en plus de très bons bacheliers français. Mmh. Je pense notamment à HEC Montréal, à l'Institut ODM Press, à la Bocconi, à McGill. Mmh. Et bien d'autres. Est-ce que vous sentez cette concurrence-là dans l'évolution de votre recrutement ?
Alors effectivement, comme je disais, je sens cette concurrence-là à travers l'appétence des jeunes et ce qu'ils nous remontent. Et quand on les questionne sur leur choix d'école, et c'est notamment un sujet qu'on peut aborder lors de nos entretiens de recrutement, lors des entretiens de motivation pendant le concours, on voit qu'aujourd'hui, dans leur palette de choix, il y a effectivement leur choix sur Parcoursup, qui peuvent être des programmes en 5 ans, des prépas, des bachelors, mais il y a des choix qui sont hors Parcoursup et qui sont ces choix d'institutions que vous mentionnez à l'international.
Vous les voyez sur le terrain, vous les voyez venir recruter, ces institutions étrangères ? Vous les croisez dans les salons, vous voyez dans les lycées ?
Alors, on les croise effectivement dans les salons. Et puis, on a parfois même des propositions de faire des sessions de recrutement ou d'information croisées. Tu m'autorises à faire de l'information pour tes étudiants de bachelor en 3 ans sur mes masters. Et à charge de revanche, tu viens sur mon campus pour faire de l'information à mes étudiants. Mais plutôt sur des programmes spécialisés. Je pense à des programmes en hôtellerie ou ce type de formation post-bac.
Ok. Est-ce que vous pouvez, à ce sujet-là, nous dire d'où viennent vos étudiants de première année ? On a l'idée que vous pourriez avoir un recrutement privilégié dans les grands lycées privés catholiques du nord de la France et de Paris, donc là où vous avez vos deux campus. Et là, je parle des étudiants français, évidemment, pas les 25% d'étudiants internationaux. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous avez des chiffres ?
Alors, c'est effectivement des stats qu'on suit avec mon équipe admission. Et aujourd'hui, si on prend les 1000 premiers candidats au concours de l'année dernière, ils viennent de 200 lycées, environ 200 lycées différents en France. Ils viennent de tout le territoire français. Alors, un pourcentage important de candidats franciliens, mais par exemple, les Hauts-de-France, aujourd'hui, représentent moins de 10% de nos candidats. Et ils viennent aussi d'une centaine de lycées français à l'étranger. Donc aujourd'hui, on a vraiment une dispersion importante, finalement, des lycées d'origine. Et si on prend les 1000 premiers candidats au concours de l'année dernière, un lycée n'envoyait pas plus de 10 candidats, en fait, parmi cet échantillon-là. Et nos candidats viennent aussi bien alors, de grandes métropoles, de lycées connus et renommés en Ile-de-France, dans le Nord, sur la région Rhône-Alpes également. Donc effectivement, c'est étroitement corrélé avec les métropoles économiques finalement. Mais nos candidats viennent aussi de territoires ruraux et viennent aussi du sud de la France. J'ai tous les ans des candidats de Toulouse ou de Bayonne ou autre.
Alors ça, c'est le panel général, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de continuum entre des lycées catholiques et l'ISEG, dont on connaît la culture d'origine? Est-ce que, parce que les parents, tout simplement, sont prescripteurs, vous l'avez dit, et donc ils connaissent peut-être davantage cette école, ou les deux ou trois autres écoles qui recrutent dans le même concours, est-ce qu'il y a une forme de continuité dans ce parcours-là d'orientation?
En tout cas, aujourd'hui, je ne le ressens pas comme ça. Je ne le ressens pas comme ça dans les chiffres. Il y a une diversité des étudiants qui postulent chez nous et de leurs profils, y compris des étudiants qui ont un parcours international parce qu'ils sont en lycée français à l'étranger ou parce qu'on fait aussi beaucoup de recrutement à l'international avec nos 4 bureaux à l'étranger. Donc, je ne pense pas qu'on puisse parler de continuum. Aujourd'hui, il y a de nombreuses écoles qui ont finalement été créées au sein d'universités catholiques historiquement, il y a une centaine d'années ou plus. On a l'EDEC, on a l'ESSEC, on a l'ESCA et d'autres, dont l'IESSEG. Et voilà, je pense que cette question-là était sans doute beaucoup plus prégnante aux origines, il y a 60 ou 100 ans, et qu'aujourd'hui, nos écoles ont des marques fortes et des réputations, finalement, qui permettent d'être connues de tout type de public.
De ce bassin-là. Alors, l'un des leitmotifs des écoles de commerce depuis plusieurs années, c'est la question de leur ouverture sociale et de leur accessibilité, alors que leurs frais de scolarité ne cessent de grimper. C'est particulièrement vrai dans les écoles post-bac en 5 ans, qui ne bénéficient pas des 2 années de classe prépa gratuite. Et chez vous, c'est donc 12 900 euros multipliés par 5 que les familles doivent débourser. C'est donc une grosse somme. En même temps, vous distribuez des bourses. Alors, les chiffres que j'ai regardés datent de 2022-23. Vous déclarez accueillir 547 élèves boursiers du CROUS, sur un total de quelque 7 500, un peu moins, ça fait 7% de boursiers d'État. C'est très peu. Mais en même temps, vous déboursez aussi environ 4 millions d'euros de bourses sociales par an. Alors, quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez jouer pour augmenter ce chiffre à l'avenir? Et j'ajoute une deuxième question avant de vous laisser la parole. Qu'est-ce que vous pensez des dispositifs de discrimination positive au concours que certaines grandes écoles, comme HEC ou l'ESSEC, ont introduit récemment?
La question de la diversité sociale, elle est importante et elle est complexe. Et c'est un sujet que je porte personnellement depuis 18 mois, depuis que j'ai pris la direction de l'école, que je pilote en direct avec mon équipe. Une de mes premières décisions, ça a été de nommer une directrice sur l'impact social et environnemental de l'école dans mon comité de direction. Et derrière, de recruter une équipe avec une directrice de l'égalité, diversité et inclusion. Et en dessous, une personne qui est dédiée à 100% sur la diversité sociale et qui travaille avec mes équipes admission, etc. Donc, je pense que déjà, le sujet, on peut commencer à y répondre quand on a une équipe et des gens qui y sont dédiés et des moyens. En parallèle de ça, l'école a une fondation qui existe depuis 10 ans, qu'on est en train de relancer, et sur laquelle j'ai fait aussi un recrutement d'une personne à temps complet. Donc je pense qu'aujourd'hui, voilà, on a les ressources humaines compétentes qui travaillaient déjà sur ces questions d'inclusion sociale dans leurs expériences professionnelles passées pour pouvoir avancer de manière plus rapide et donner un coup d'accélérateur. Maintenant, le sujet, il est complexe, parce que le sujet, la question porte en partie sur les bourses, sur le nombre de boursiers sur critères sociaux. Mais la question de la diversité sociale, ce n'est pas qu'une question financière. Le financement des études, il est important, c'est indéniable. Et les coûts de scolarité peuvent paraître insurmontables pour bon nombre de familles. Néanmoins, la question de la diversité sociale, elle se situe en amont. C'est aller identifier des jeunes qui sont bons scolairement, dès la fin du collège, dès la seconde, les accompagner sur faire les bons choix de spécialité par rapport à leur futur baccalauréat, les accompagner sur la préparation au concours et limiter l'autocensure. Aujourd'hui, il y a énormément d'autocensure, notamment sur les jeunes filles, qui ne s'autorisent pas à penser à faire une grande école, qu'elle soit d'ailleurs post-bac ou post-prépa.
Vous en avez combien chez vous, des jeunes filles ? En part.
Total, ouais. On est à peu près à 45%
donc
de jeunes filles
et
65% de jeunes hommes.
55, je pense.
55, merci Jérôme. Et effectivement, là-dessus, la réforme du bac avec la spécialité maths a indéniablement joué en défaveur des jeunes filles pour les écoles qui recrutent avec un certain niveau en maths dans le concours et dans leur programme. La question de la diversité sociale, c'est aussi l'aval, c'est aider ces jeunes à s'intégrer, les accompagner, proposer un système de mentoring et de coaching. Donc, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de travailler sur l'ensemble et pas uniquement que l'accompagnement financier des jeunes qui arriveraient chez nous et voilà, qui seraient boursiers sur critères sociaux ou juste au-dessus des minima sociaux et qui ont aussi besoin d'un accompagnement financier. Et donc, notamment, un des leviers d'action, c'est de travailler avec des associations qui sont alignées avec nous sur cette vision de la diversité sociale et de travailler avec des associations, par exemple, telles que Télémac ou des territoires ruraux aux grandes écoles. Et aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on est en train d'activer comme dispositif.
Donc, plutôt ça, plutôt que de la discrimination positive.
Pour le moment, à court terme, je pense qu'il faut choisir son angle d'attaque et voilà, ses chevaux de bataille. Donc, c'est celui qu'on a pris, ce qui ne veut pas dire qu'on n'avancera pas sur la discrimination positive à travers un concours spécifique, etc., dans le futur.
Intellectuellement, vous n'y êtes pas opposé, en tout cas, au fait de, pour les uns, faire passer des boursiers qui ne seraient pas arrivés dans les premiers après les écrits, comme fait l'ESSEC, ou bien ajouter quelques points au concours. Ça, c'est des choses que vous pourriez mettre en œuvre ou intellectuellement, vous dites que ce n'est pas le bon chemin.
Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'un coup de pouce actif pour pouvoir développer la diversité sociale et permettre l'accès au plus grand nombre des études de qualité et à nos formations. Donc non, j'y suis pas opposée.
Alors venons-en un peu à votre stratégie. Donc, aujourd'hui, vous affichez un bon, voire un très bon trou d'encadrement pour une école avec 207 professeurs permanents pour 7500 élèves environ, ça fait un prof pour 36, un taux d'encadrement de 1 pour 36, c'est un très bon chiffre. 273 personnels administratifs, vous prévoyez pour 2027 de passer à 120 millions d'euros de chiffre d'affaires contre 95 millions en 2023, à 9000 étudiants et à 250 professeurs. Mais quand on regarde le projet stratégique, alors c'est peut-être une caractéristique distinctive de l'ESSEC, on ne voit pas énormément d'aspérité ou de points très marquants, très « waouh ». Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la colonne vertébrale de votre mandat et puis sur quel objectif votre gouvernance vous attend ?
Alors, si vous attendiez de ma part une annonce sur l'ouverture d'un campus à l'international, je ne la ferai pas.
À Dubaï.
Et je risque de décevoir nos auditeurs. Je pense que, et peut-être que la question finalement, elle est aussi liée à la culture des gens du Nord qui font avant de communiquer. Non, c'est juste une plaisanterie, mais aujourd'hui, le projet stratégique de l'école repose sur plusieurs axes. Et dans les axes, j'allais dire, qui sont une impulsion nouvelle pour l'école et que je porte depuis 18 mois, il y a la question de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat étudiant. Et on a de nombreux étudiants, en fait, qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriale très jeunes, dès 18, dès 19 ans, dès leur première ou deuxième année à l'école, et qui ont besoin d'avoir des dispositifs spécifiques d'accompagnement pour pouvoir vivre deux vies. Leur vie d'étudiant dans un programme de bonne qualité, exigeant académiquement, et leur vie d'entrepreneur. Donc là, on a mis en place ces dispositifs-là. On développe nos incubateurs sur les campus de Lille et Paris. On travaille également à accueillir nos étudiants, nos diplômés qui vont revenir dans nos incubateurs et qui vont pouvoir développer leurs projets. Et on a mis en place dans nos programmes un semestre avec une teinte entrepreneuriale obligatoire pour tous les étudiants. Ça, c'est le premier axe de développement fort, l'entrepreneuriat, qui répond à la fois une attente de nos étudiants, mais également, je pense, à nos ambitions en matière d'impact, de responsabilité sociale, puisque l'entrepreneuriat est un des leviers d'accélération, finalement, de la contribution de l'école, de ses étudiants et de ses diplômés à une société plus verte, plus juste, plus sociale.
L'entrepreneuriat, toutes les écoles nous en parlent, c'est pas très, très distinctif, vous en conviendrez.
Je pense que ça devient distinctif quand vous le faites de manière obligatoire dans vos programmes, que tous vos étudiants, à un moment donné, rencontrent les entrepreneurs de votre incubateur, quand vous mettez des moyens financiers et quand vous doublez, sur une période de 12 mois, le nombre d'étudiants incubés et le nombre d'étudiants entrepreneurs. Aujourd'hui, dans mon programme, j'ai 150 étudiants entrepreneurs qui ont ce statut-là, non pas sur base de déclaratif, mais qui ont passé par tous les critères fixés par l'incubateur et qui ont une entreprise légalement enregistrée qui fonctionne.
Donc vous aimeriez avoir dans quelques années l'image d'une école entrepreneuriale?
Je pense que dans son ADN, fondamentalement, l'IESSEG est entrepreneurial. On est une école qui n'a pas forcément suivi les tendances ou suivi les modes, qui est restée solide sur ses fondations, sur ses convictions d'un programme 5 ans alors que c'était à contre-courant, qui a été développé l'internationalisation de son corps professoral et de ses programmes dès 2004 alors que personne ne le faisait encore à l'époque. Et voilà, qui a tracé sa route finalement indépendamment un peu des effets de mode ou de ce qui pourrait se passer en matière de tendances fortes dans l'enseignement supérieur. Donc l'école est fondamentalement innovante et entrepreneuriale dans ses programmes, en fait dans son cœur de métier, dans sa pédagogie, dans ses programmes, dans sa recherche.
Alors, Caroline Roussel, on n'a plus beaucoup de temps. J'aimerais quand même vous poser une dernière question sur le débat qui est en ce moment autour de l'enseignement supérieur privé, qu'il soit associatif comme celui auquel vous appartenez ou lucratif. On sait qu'il y a un groupe de travail au ministère en ce moment qui se réunit pour parler d'un futur label. Est-ce que vous estimez que le privé associatif, qui a pour caractéristique de ne pas rétribuer d'actionnaires, devrait être l'alternative au privé lucratif et que les pouvoirs publics devraient l'aider davantage, alors qu'on sait bien que l'argent manque pour financer le public comme il faudrait? Et est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de capacité d'investissement quand même dans ce secteur-là du privé associatif, un manque de levier puissant pour financer toutes les mutations qui sont à venir?
Je pense que l'enjeu premier et fondamental, c'est un enjeu d'information et d'orientation du jeune. Le jeune, il doit savoir s'il rejoint une école qui va lui proposer un diplôme reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ou s'il va rejoindre une école qui va lui proposer un titre RNCP qui va lui donner finalement une autre forme de reconnaissance. Et ce jeune, il doit être au courant et informé de ce que ça veut dire pour la suite, de ce que ça veut dire pour une reprise d'études, de ce que ça veut dire pour son insertion professionnelle, et de ce que ça veut dire pour sa carrière et sa mobilité professionnelle. Et je pense que l'enjeu fondamental que nous, établissements d'enseignement supérieur, nous avons, c'est cet enjeu-là premier d'information et de formation, d'orientation des jeunes, pour qu'ils sachent exactement dans quel type d'établissement ils mettent les pieds. Et quelles sont les conditions aussi de leurs études? Quel est l'environnement d'apprentissage qu'on leur propose? Est-ce qu'il y a des professeurs permanents?
Donc vous êtes favorable à ce label?
Je suis favorable à une meilleure information sur les labels déjà existants. Vous parliez des établissements associatifs comme le mien. On a une qualification qui est la qualification ESPIG. On est en contrat avec le ministère. On est évalué par le HCRS. Ça, il faut le faire savoir et il faut le faire savoir plus largement.
Et est-ce que vous demandez un meilleur financement de l'État?
Alors, aujourd'hui, on est face à des injonctions contradictoires et paradoxales. L'État nous demande d'accueillir davantage de boursiers, d'avoir plus de diversité, de limiter l'augmentation des frais d'inscription. Mais en même temps, nos modèles font qu'on est fondé sur les frais d'inscription. Donc, on essaye de les limiter au maximum. Mais vous l'avez dit, on l'a évoqué, on est dans un secteur fortement concurrentiel. Donc, il faut pouvoir également avoir les leviers financiers pour se développer. Donc aujourd'hui, l'aide de l'État, elle est importante. Elle permet d'avoir nos comptes à l'équilibre. Elle permet de mener un certain nombre d'actions en matière de diversité sociale, de RSE, etc. Oui, elle n'est pas suffisante.
Bien. Caroline Roussel, votre podcast touche à sa fin. Quel est le conseil de lecture d'écoute que vous nous avez amené?
Alors, ce sera un conseil de lecture. J'aime beaucoup lire. Je peux passer des heures dans une librairie à regarder tous les livres qui sont disponibles et qui sortent, et les livres physiques, papier. Et donc, mon conseil de lecture, ce serait Une vie de Simone Veil, son autobiographie, qui permet de comprendre finalement son histoire personnelle, son vécu, les raisons de ses engagements, de ses choix, de ses engagements au service de la société, de ses engagements européens et en faveur du droit des femmes. Et je pense que c'est une lecture qui permet d'informer un certain nombre de débats actuels et qui traverse aussi forcément nos institutions.
Merci beaucoup, Caroline Roussel, directrice générale de l'IESSEC, de nous avoir rendu visite au studio Module. Merci aussi à vous, Jérôme Kaby, ainsi qu'à tous nos auditeurs et auditrices. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours avec un nouvel invité. Et d'ici là, portez-vous bien.